Salve.
Come sta?
Permesso?
Maestro, prego.
Una grande storia d'amore, sì, sì.
Wow, ho detto mamma mia.
Viva l'Italia!
Allora?
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 Allora, dai!
Buongiorno, bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi, à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez?
Venez, venite con me, yam!
Buongiorno a tutti, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora, un numéro un peu à part, à l'occasion du premier anniversaire du podcast. Alors, on baisse tout de suite le générique pour savourer un peu.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri allora, tanti auguri a te.
Ouah, ça c'est de l'anniversaire. Et j'espère bien que vous participez au cœur, vous aussi, avec votre casque sur les oreilles. Et oui, une bougie, 12 épisodes, autant de rencontres qui ont été d'une richesse folle pour moi et je l'espère aussi pour vous. Des histoires et des témoignages sur fond d'Italie qui nous ont permis d'affûter notre connaissance de la culture italienne, de gagner une étagère en plus dans nos bibliothèques respectives, dédiées à l'Italie évidemment, d'ajouter des titres qui sentent bon la Dolce Vita dans nos playlists et de passer des soirées entières à dévorer des films de la Cinecittà. Bref, je dois dire que les invités d'Allora avaient de la suite dans les idées. Mais j'ai envie de vous faire une confidence. En parallèle des épisodes, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages qui, petite parenthèse, me font tellement plaisir et à me demander quelles sont mes inspirations à moi, mais aussi quel est ce lien qui me relie à l'Italie. Il doit bien y avoir des origines familiales quand même. Eh bien, absolument pas. Mais alors, d'où vient cette passion, me direz-vous? Évidemment, il y a bien une raison. Et je me suis dit qu'à l'occasion des 1 an du podcast, j'allais vous la raconter et en profiter pour vous donner mes coups de cœur culturels italiens, ceux qui m'accompagnent au quotidien pour m'apporter ma part nécessaire d'italianité. Et à la fin de cet épisode, je me transformerai peut-être véritablement en Chiara Plantinetti, le nom que j'aurais rêvé porter. Big up à Ali di Firenze, mais ça, c'est vous qui en jugerez. Je vous dis donc à tout de suite.
Ah, capisco.
Alors, je vais tenter de ne pas changer nos petites habitudes pour autant et de respecter les rituels du podcast. Donc, comme à chaque début d'épisode, on pose le décor. Je vous parle depuis le 11e arrondissement de Paris où je vis. Bon, jusque-là, rien de bien italien. Mais si j'aime demander à mes invités dans chaque épisode comment ils se recréent une bulle d'Italie dans leur quotidien depuis la France, c'est parce que je suis convaincue qu'on peut intégrer une autre culture que la sienne dans sa vie de tous les jours, en la rythmant par des habitudes ou des pratiques culturelles, en la décorant d'objets symboliques, et que tout ça, eh ben, ça fait venir à soi l'Italie. En ce qui me concerne, je crois que ce sont les souvenirs de voyage qui m'apportent ma part d'évasion quotidienne en Italie. Au moment où je vous parle, mon regard se pose sur une petite estampe bleue ramenée de Venise. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite à semer quelques inspirations. L'artiste qui l'a réalisée s'appelle Arianna Sottariello et vous pouvez retrouver ses créations sur son site et son compte Insta qui s'intitule Plum Plum Création. Elle vend ses œuvres à distance, mais aussi depuis son atelier vénitien, moi c'est là que je l'ai découverte. Et sa particularité, c'est qu'elle a décidé de préserver l'art ancien de la gravure à Venise. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser aussi des aquarelles et des dessins tous inspirés de la Sérénissime. Et ce que je trouve fou, c'est qu'avec des méthodes ancestrales, elle propose des créations hyper modernes, colorées, originales, qui délocalisent Venise dans nos intérieurs. Bref, tout ce qu'on aime. Elle est donc posée au-dessus de mon bureau et elle m'inspire à chaque fois que j'écris les interviews d'Allora ou que je monte mes épisodes. Sur mon étagère, juste en face, il y a ma pomme de pin et ma testa di moro en céramique blanche ramenée de mon voyage en Sicile cet été. Sans oublier le citron jaune qui orne ma porte d'entrée. Je débarque en Sicile à chaque fois que je passe la porte, c'est dire. Et puis, Comme vous, j'imagine, il y a tous les souvenirs culinaires qui se logent dans nos cuisines. De mon côté, il y a le sel à la truffe ramené d'Ombry, l'huile d'olive de Cédric Casanova qui nous en parlait dans l'épisode 2 d'Allora, et les gâteaux au chocolat romain à tomber par terre que m'a offert Ilaria Gaspari, les biscotti gentilini. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une spécialité à Rome depuis 1890. C'est la belle boîte en fer vintage dans laquelle ils sont vendus qu'il dit. Et je les ai découverts en enregistrant le dernier épisode et je peux vous dire que je compte bien vider leur stock à ma prochaine escale à Rome. Ils sont vraiment très très bons. Bref, tous ces souvenirs, ils sont associés à des lieux de vacances, de découvertes en Italie. Et à chaque regard posé, bah, je crois qu'il m'offre ma petite parenthèse italienne dont j'ai besoin tous les jours. Bon, si je continue à suivre les rituels. Vous le savez, chaque numéro d'Allora est construit comme un roman que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous retracer ma vie, mon œuvre, mais je me disais que je pouvais vous proposer des chapitres qui racontent et tissent mon lien à l'Italie. Alors, c'est parti pour le chapitre 1, intitulé « Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ». Eh ouais, Richard, si tu nous entends, on démarre fort.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime.
Bon, cette chanson, c'est un clin d'œil au sens propre comme au figuré, car c'est véridique, je plaisante toujours en vacances en parlant de ma peau d'italienne qui prend très très vite le soleil. C'est faux. On passe toujours par la phase rouge écarlate, décalcomanie des marques de débardeur, et ça s'affine au fur et à mesure, rassurez-vous. Non, en vérité, évidemment, c'est plus le coup d'amour, le coup de je t'aime qui raconte mon coup de foudre pour l'Italie et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu. Je rentre d'un voyage au Canada, oui, ça m'arrive de faire des infidélités à la botte, et les Canadiens ont une expression, ils disent « tomber en amour ». Et je trouve que ça définit bien ce que ressentent les amoureux, les passionnés de l'Italie, on est tombé en amour pour ce pays. Alors de mon côté, mon coup de foudre, il est né à la frontière italienne à Ventimiglia. En fait, enfant, j'ai eu une grand-mère de cœur qui s'appelait Gisèle, qui a été une personne pilier dans ma petite vie. Et j'ai eu la chance de passer toutes mes vacances depuis mon plus jeune âge chez elle, dans le sud de la France, dans un petit village provençal sublime qui s'appelle Flayosque. Et comme Alice Chéron, qui vient de Nice, le disait dans l'épisode d'Allora qui lui est consacré, dans le sud de la France, il y a déjà un air italien qui se fredonne. Et je crois que cette ambiance, elle m'a happée hyper vite. Et dès que j'ai été en âge de faire des escapades, celle que j'appelais Tata Gisèle m'a pris sous son aile et m'a offert un beau rituel. Chaque année, elle m'emmenait passer une journée en Italie sur le marché de Ventimiglia. C'est vraiment ma porte d'entrée à moi sur l'Italie. Alors, vous me direz, c'est une zone frontière, c'est peut-être pas la plus belle des villes italiennes, oui, mais je crois que ces villes, elles ont pour force de donner non seulement les codes, mais aussi le tempo d'un pays, d'une culture, d'une atmosphère qui résonne hyper singulièrement. Finalement, c'est par elles qu'on entre dans le pays. Et moi, quand je me replonge dans mes premières virées italiennes, je me souviens d'une ville qui grouille, des sonorités, cette langue qui explose dans mes oreilles. Avec tous ces vendeurs qui crient, qui chantent, qui nous apostrophent, exactement comme Alessandra Pierini nous le décrivait dans son épisode, quand elle allait s'approvisionner pour son épicerie italienne marseillaise. Et évidemment, il y avait aussi la pause déjeuner à la trattoria, une nouvelle attestée chaque année évidemment, avec des pastas en veux-tu en voilà. Je vous épargnerai juste les achats mode sur le marché réalisés avec mon goût douteux de l'époque. Oui, il y en a eu quelques-uns avec un petit pic d'arrogance observé à l'adolescence. Tous clichés ont été détruits depuis, inutile de demander. Et tous les ans, il y avait ce besoin qui a commencé à grandir, cette attente de nos virées italiennes. Et mes parents, qui sont eux aussi des amoureux de l'Italie, ont pris le relais. Et chaque année, on a dépassé la frontière pour aller arpenter la Toscane tous les étés. Il y a eu Lucca, San Gimignano, Pise, Sienne, et ces paysages qui défilaient derrière les vitres de la voiture qui sont restés ancrés. Et en fait, ce coup de foudre, j'en ai pris conscience des années plus tard, quand j'ai réalisé que j'avais besoin de ma dose d'Italie annuelle, comme d'une évasion nécessaire à mon bien-être pour me retrouver, comme d'un lieu qui me réénergise à chaque fois que je pose un pied là-bas. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, rares sont les lieux qui me font cet effet, comme s'il y avait une connexion instantanée. Et je crois qu'on est nombreux à l'avoir, ce rapport-là à l'Italie. À chaque fois que j'en parle autour de moi, aux amoureux, aux passionnés, on est souvent nombreux à se faire la même remarque, en fait. Bref, je crois que c'était déjà trop tard pour moi. Le charme de l'Italie avait opéré. Et je ne vous ai pas tout dit. Pour me faire patienter jusqu'au prochain voyage, j'ai acheté mon petit guide « L'Italien tout de suite » aux éditions Pocket, avec sa cassette audio, et ouais, c'était l'époque, pour nous imprégner des sonorités.
Voici la version sonore de « L'Italien tout de suite ».
Leçon A1, je suis.
Sono.
Et maintenant, c'est à vous.
Alors, vous êtes en train de me le conjuguer, ce petit verbe être ? Oui, comme vous pouvez le constater, c'est un épisode participatif, une expérience immersive dans ma méthode d'apprentissage, le B.A.B.A., grâce à ce petit guide. Puisque là, préparez-vous, on arrive au cliffhanger de mon histoire, le drame de mon enfance, j'ai bien dit drame, c'est qu'étant originaire de Vendée dans le nord-ouest de la France, je n'avais le choix parmi les langues étrangères en V2 qu'entre l'espagnol et l'allemand. Allez savoir pourquoi, j'ai pris la plus éloignée de toutes, l'allemand. Oui, parfois faut pas chercher à comprendre, mais ça a été mon grand dilemme. Alors, mon guide, l'italien tout de suite, a été mon petit compagnon de voyage. Grâce à lui, je sais dire « au fame » et « au sete ». J'ai faim et j'ai soif, soit la formule magique pour survivre en Italie. Ce qui est drôle, en fait, c'est que ce petit livre que j'ai toujours à côté de moi, la première version, s'est noyée dans la mer. Oui. Alors, j'ai dû racheter la nouvelle avec une version audio numérique hyper moderne. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je réalise que je l'écoute encore régulièrement, juste quand j'ai besoin de me rappeler le B.A.B.A. de l'italien, les chiffres, les conjugaisons de base, comme si j'avais besoin de garder cette petite musique de l'enfance dans les oreilles pour entretenir les fondamentaux. Donc, qui sait, ben, je crois que ce guide, je vais l'avoir à mes côtés ad vitam. Et comme je suis toujours en formation d'italien, j'en profite pour glisser quelques conseils ici. Je ne sais pas du tout si vous qui écoutez à l'ora, si vous êtes en train d'apprendre l'italien, peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus fluentes que moi en italien. Mais work in progress, ça continue, on y va piano piano. Et il y a quelques méthodes que j'adore et que je vous partage, sait-on jamais, ça peut vous être utile. Il y a un site américain qui s'appelle News in Slow, en italien, il existe dans plusieurs langues. C'est un abonnement payant qui revient environ à 18,50 € le mois. Et il y a même une semaine de test offerte, si jamais. Et en fait, vous avez accès à des articles de presse ou des chroniques radio qui sont adaptés à chaque niveau. Et c'est un support médiatique, en fait, qui est destiné à l'apprentissage de la langue, mais uniquement autour de sujets actuels et des sujets de société. Donc, ce que je trouve génial, c'est que c'est assez utile et c'est vraiment dans l'air du temps, en fait. Ça nous fait parler et écouter de tout ce qui se dit dans l'actualité du moment. Le conseil numéro 2, il vient un peu plus du cœur. C'est que je vous conseille d'écouter le podcast de Chiara Borghesi, alias Chiara Stescani. Ça s'intitule « Chiacchiere con Chiara », donc c'est « Papoter avec Chiara ».
Chiara Stescani è un progetto che nasce come un blog per rimanere in contatto con i miei studenti sparsi per il mondo e per condividere la mia passione per la Toscana e la lingua italiana.
Et vous avez deux types de rendez-vous dans ce podcast. Il y a des habitudes dans l'art de vivre italien qui nous sont expliquées, en italien toujours, comme la tradition du café, du mocha, l'habitude du bar, ou l'heure où tout le monde se retrouve sur la piazza italienne, ou encore il y a la signification de l'expression de la bella figura. Mais aussi des rencontres avec des Français, des Anglais, des Américains, qui parlent de leur rapport à la langue italienne et de leur méthode d'apprentissage, parce que Chiara, en fait, à la base, elle donne des cours d'italien. Et écoutez la douce voix de Chiara, sa passion, elle est vraiment contagieuse. Et je suis sûre que même ceux qui ne parlent pas italien peuvent la comprendre ou en tout cas commencer à s'imprégner un peu de l'italien. C'est hyper agréable. J'adore l'écouter quand je suis dans les transports à Paris ou quand je me balade. Et Chiara, vous pouvez aussi la retrouver sur Insta avec des expressions, des paroles italiennes qui vous sont expliquées. Et on adore, quoi. Et c'est aussi ce que propose d'ailleurs Aurélie en Italie. Le compte, c'est Aurélie en Italie. Et ce sont des personnes qui ont soutenu Allora dès le début. Alors merci à elle. Apprendre l'italien, c'est encore ma quête du moment. Je ne suis pas du tout arrivée à un niveau fluent absolu. J'y vais piano piano, comme ils disent, avec un métier qui est assez prenant. J'ai assez vite compris que les cours du soir en italien, ça ne me convenait pas du tout. Les bonnes résolutions de chaque rentrée ne sont jamais tenues. Alors je me suis dit, on arrête ça. Et si j'apprenais l'italien en partant en voyage et en jetant mon dévolu sur des écoles de langue parsemées un peu dans toute l'Italie? Eh bien, ça fait 10 ans que ça dure. Et pour vous en parler, j'ouvre le chapitre 2. Voyage, voyage. Oui, comme l'intitulé d'une célèbre autre chanson.
Voyage, voyage.
En 2013, ça fait donc 11 ans cette année, j'ai démarré ces voyages en solo. On pourrait aussi les appeler des fugues, comme Ali di Firenze et Alice Chéron le défendent si bien. Car le but, c'est de partir seule, dans différentes villes, différents coins d'Italie, pour rencontrer des amoureux de ce pays, comme moi, qui viennent souvent des quatre coins du monde, et avec qui je finis souvent par arpenter la région tout en faisant avancer mon niveau d'italien. En vrai, c'est le rêve. Partir seul en voyage, c'est pas si simple. Il y a toujours ce moment quand on se retrouve dans un train, un avion, un bus, où on se dit, sincèrement, pourquoi je m'inflige ça? J'avais un petit programme de vacances bien pépouse qui m'était proposé. Pourquoi je me fixe encore ce défi? Car c'est toujours un petit défi personnel, enfin pour moi en tout cas. Et j'ai l'impression que l'Italie, en fait, elle me donne cette force, elle m'offre l'élan pour oser. Alors, si vous n'avez jamais osé le faire, peut-être que vous pouvez essayer de vous laisser porter par les 12 ondes italiennes dont on est tous accros. Et pour vous parler de mon expérience, j'ai décidé de vous emmener dans mes valises dans 3 villes, 3 lieux d'apprentissage et de voyage qui ont été hyper marquants sur mon chemin. Il y a Roma, Genova et Taormina. Et à chaque escale, le but, c'est que je vous partage une inspiration culturelle qui me rappelle ce lieu. Premier arrêt, Rome. C'est dans la capitale italienne que j'ai pris cette habitude et qui ne m'a plus quittée. J'avais 25 ans, je crois. Et quand j'ai mis les pieds dans l'école romaine qu'une amie m'avait recommandée, je n'avais pour base que les expressions mémorisées dans l'italien tout de suite. On se rappelle « o fame, o sette ». On y revient toujours. Et j'avoue, j'ai été assez bluffée, car la règle était « on parle solo in italiano ». Bon, évidemment, on essayait tous de gratter quelques trades en anglais, la langue commune, mais c'était niette à chaque fois. Et en l'espace de 3 semaines, j'ai vraiment posé les bases et j'arrivais non seulement à comprendre ce qu'on me disait, mais aussi, un peu moins bien, à m'exprimer. Bon, évidemment, mes échanges n'allaient pas bien loin, mais j'avais la preuve qu'en quelques semaines intensives, on pouvait se familiariser, et même plus que ça, avec une langue. Et pendant ce voyage, il y a eu un lieu de culture qui m'a portée, c'est la Villa Médicis, qui est aussi l'Académie de France à Rome. J'imagine que vous y êtes tous passés, ou en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, il va falloir le faire très vite. Moi, ça a été le premier lieu que j'ai visité en arrivant, et il est resté un peu à part pour moi. Déjà, ça se mérite, parce qu'il faut monter une à une toutes les marches de l'escalier de la Piazza di Spagna, mais on est quand même vite récompensé. Car quand on arrive, on surplombe Rome, la vue est juste magnifique. Pour rappel, la villa elle est entourée d'un parc de 7 hectares qui est situé sur le mont Pincio, au cœur de la ville. Mais en plus, à chaque fois, j'ai le souvenir d'un silence qui est assez étrange parce qu'on est à 2 pas d'un des quartiers les plus animés de la capitale. Et pourtant, ici, à chaque fois, j'ai l'impression que tout se calme, tout s'apaise. Et puis, on entre dans cette villa comme un palais. Il y a une magie qui opère et je vous recommande la visite guidée parce qu'on y découvre ou on y redécouvre toute l'histoire du lieu et en particulier son lien à la France. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui crée entre nous et ce lieu une connexion un peu singulière, comme si on était reliés d'une certaine façon. Pour info, parce que je l'ai redécouvert en préparant l'épisode, l'Académie de France à Rome, elle a été fondée en 1666 par Louis XIV et elle s'est installée à la Villa Médicis en 1803. Et cet été-là, pendant ma visite guidée, le groupe a été invité à revenir le soir même au sein de la Villa Médicis, plus précisément dans les jardins, car leur festival de cinéma en plein air démarrait tout juste. Et c'était une rétrospective dédiée à Michel Piccoli. J'y suis allée et c'est resté gravé Ce soir-là, il y avait le mépris de Jean-Luc Godard qui était diffusé sur la grande place intérieure de la villa.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli.
Et là, je vous décris un peu l'ambiance. Il y avait les cyprès qui nous entouraient. La nuit qui tombait, le ciel devenait rose, les cigales donnaient un petit concerto. Ouais, je crois que ça reste l'un de mes petits moments suspendus en Italie. Vous savez, il y a des petits moments qui restent un peu à part, dont on se souvient, je sais pas, ils sont restés marqués sur la pellicule. Et du coup, ça crée une histoire particulière avec ce lieu. Et évidemment, quand j'ai vu le bon plan dès le premier soir, j'y suis retournée tous les soirs qui ont suivi. Et d'ailleurs, petite astuce si ça vous intéresse, j'ai découvert que le festival de films de la Villa Médicis, il avait un peu évolué. Moi, quand je l'avais découvert, c'était en juillet, c'était l'été. Et là, désormais, il est organisé en septembre. La prochaine édition, elle a lieu du 11 au 15. Et il est dédié maintenant aux artistes et cinéastes qui explorent les pratiques contemporaines de l'image en mouvement. Et il y a 12 films qui sont en compétition. Ce festival de cinéma, il était assez symbolique. Car pour moi, Rome, c'est la ville du cinéma italien. J'en avais profité la même année pour découvrir les studios de la Cinecittà, qui sont passionnants. Et parmi mes inspirations ciné, je vais pas être hyper originale, mais je l'assume. L'un de mes films préférés, c'est un film américain, en fait, de William Wyler, et qui, pour moi, retransmet parfaitement la sensation que l'on ressent dans cette ville. Et si je vous dis Audrey Hepburn et Gregory Peck, évidemment, vous me répondez « Vacanze romane »,« Vacances romaines ».
Why don't you take a little time for yourself?
I could do some things I've always wanted to.
Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça doit être en pole position de votre liste à l'italienne des films à voir. C'est en gros l'histoire, la romance entre Anne, une jeune princesse, qui rencontre un séduisant reporter, évidemment, Joey Bradley, qui s'accorde une escapade romaine secrète sur sa Vespa, loin du protocole étouffant qui rythme son quotidien de princesse. Ce film, il vaudra quand même à Audrey Hepburn l'Oscar de la meilleure actrice en 1954. Et ce que j'adore, ce qui fait le charme incontesté du film pour moi, c'est qu'on visite Rome en Vespa en fait avec eux. On passe par le Colisée, le pont et le château Saint-Ange, la fontaine de Trevi, le Panthéon, la Piazza Venezia ou encore la fameuse Piazza di Spagna et ses escaliers. Et il y a une anecdote qui m'a toujours interpellée. C'est que le film, il est tourné en noir et blanc à une époque où le Technicolor était en plein essor, les films commençaient à apparaître en couleur. Mais il y a deux raisons qui ont été évoquées pour le choix du noir et blanc. Soit les studios ont souhaité économiser, tout simplement, soit le réalisateur a eu peur que les acteurs soient évincés et passent au second plan face à la beauté des monuments romains. Et j'adore que ce doute il plane, car en vérité, la ville, je trouve, leur vole déjà un peu la vedette. Donc voilà, bon, ça c'est ma petite anecdote personnelle. La deuxième halte, c'est Genova, Gênes en Ligurie et les Cinque Terre. Je pense que c'est ma région préférée en Italie. Un peu comme un clin d'œil, on la rejoint depuis la Côte d'Azur en passant par Vintimille. C'est peut-être ça qui me relie, qui fait que c'est ma région de cœur et qui me relie à cette riviera italienne qui ressemble pour moi à un petit paradis sur terre. Parce que je trouve que derrière le clinquant apparent de cette côte méditerranéenne, toutes les villes et les villages qui la jalonnent sont authentiques et cachent hyper bien leur vérité. Il faut les apprivoiser, en fait, tous ces petits villages pour qu'ils se laissent découvrir pleinement. C'est ça que je trouve génial. Et c'est aussi ce qu'on retrouve à Gênes, qui est une ville qui est pleine de mystères. Et Gênes, en fait, pour moi, ça a été une excuse pour faire une halte de quelques semaines dans une école à proximité des Cinque Terre, qui s'est finalement transformée en une incroyable surprise. C'est une ville portuaire, mais là encore, il y a plein de surprises qui se cachent derrière ces rues un peu cracra, un peu hyper authentique, quoi. C'est pas l'Italie clinquante, encore une fois. Mais pour autant, il y a toute une richesse passée qu'on découvre au fil des promenades dans ces rues, tous ces palazzi qu'on peut visiter. Et pour moi, c'est ça la vérité de cette ville. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'y suis retournée à plein de reprises depuis. Mais non, moi, ce que je voulais par-dessus tout, c'était donc découvrir les Cinque Terre. C'était un peu mon rêve. Ces cinq villages colorés, comme déposés sur leurs falaises qui surplombent la Méditerranée. Il y a Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Alors moi, j'y suis allée au mois d'avril. Et je suis arrivée lors d'un week-end hyper ensoleillé, forcément victime de son succès des premiers week-ends de beaux jours. J'ai découvert les premiers villages, mais plein à craquer, de locaux, de touristes. Je crois que c'était le week-end de Pâques. Et en fait, moi, j'avais prévu d'y rester un peu plus longtemps dans la semaine qui suivait. Et mon planning, c'était de marcher. Parce que pour ceux qui l'ignorent, il y a aussi des sentiers de randonnée qui relient chacun des villages entre eux. Mes changements de programme, j'ai dû passer les 4 jours qui ont suivi sous la pluie. La météo, elle était juste atroce. Donc vous imaginez mon désarroi. Un an à attendre ce moment, à se dire je vais y aller, je vais avoir mon moment un peu idyllique. Et du coup, je me retrouve sous la pluie. Et ça, Caroline de Salvo, elle nous l'enseignait dans l'épisode qui lui est dédié, dans Allora. Le voyage, c'est que des aléas auxquels il faut s'adapter et qui vont donner au voyage finalement une autre direction, une tonalité qui est assez différente. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Changement de programme, j'ai pas du tout marché, tout le monde disait attention, risque d'éboulement. J'ai donc changé mon planning et j'ai passé mon temps à apprendre mes conjugaisons et mes listes de vocabulaire italien dans les cafés, à bouquiner autour d'un espresso ou d'un verre de Chianti, ça dépendait des heures. Et j'ai pu rencontrer en fait plein d'autres voyageurs qui erraient comme moi dans ces petits villages complètement immobilisés par la météo. Et en fait, j'ai réalisé que la chance que j'avais eue, c'était de les avoir pour moi. Ces petits villages qui habituellement sont si touristiques, je les ai vécus avec les locaux comme une petite parenthèse de vérité, comme si j'avais pris vraiment la pulsation de ces villages dans leur pure authenticité, quoi. Et ça, ça reste un souvenir pareil, qui est hyper gravé. Et ma découverte culturelle qui est liée à ce voyage, c'est une photo qui s'appelle « Scène d'été » du photographe Pierluigi Messolella. Et c'est un cliché de Bocadas. C'est un petit hameau de pêcheurs complètement pittoresque qui est à la périphérie de Gênes. On peut le rejoindre depuis le centre en marchant le long du Remblai. Autant vous dire que ce chemin, je l'ai emprunté des fois et des fois dès que j'ai découvert ce petit havre de paix. Et cette photographie, elle nous plonge ou replonge, pour ceux qui connaissent, directement dans l'atmosphère de cette minuscule plage. On y est avec cette foule de locaux qui s'étalent sur des serviettes colorées, des chaises longues, pour discuter au soleil sur les rochers ou savourer les glaces de l'incontournable Antica Gelateria Amedeo. Ouais, j'ai testé. Le tout face à toutes ces petites façades, de ces petits immeubles au ton pastel. Et pour moi, un seul regard sur cette photo et hop, on s'accorde une escapade. Donc je vous la recommande et évidemment, je vais la déposer sur l'Insta d'Allora. Troisième halte, Taormina. C'était la première fois que je m'évadais en Sicile. Bon, autant vous dire que ça ne sera pas la dernière. Comment ne pas tomber amoureux transi de cette île incroyable ? Je sais pas, en fait. L'une de mes amies, qui a aussi découvert l'Italie en s'accordant des pauses dans des écoles de langue, m'avait dit « Le jour où tu veux partir apprendre l'Italie en Sicile, j'ai l'endroit parfait pour toi. » Et c'est bel et bien vrai. J'ai débarqué à Taormina en suivant ses conseils. J'avais un peu peur, si je suis complètement honnête, parce que tout le monde dit que c'est une petite ville sublime, mais qui là aussi est hyper touristique, qu'on décrit souvent comme le Saint-Tropez sicilien local. Alors c'est vrai, c'est clinquant. Mais comme dans tous ces lieux très touristiques, notre mission à nous, c'est d'aller chercher et découvrir, hors des sentiers battus, tous ces petits chemins secrets qui sont tenus à l'abri des regards et des hordes de touristes. Et il y en a toujours, en fait. Et là encore, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression d'avoir réussi, parce que j'y ai passé du temps, à découvrir cette toute petite ville dont, au final, on fait assez vite le tour. Mais j'ai réussi à la voir sous un autre jour. Et ça a été un sublime cadeau. Et tout ça grâce à cette école. Et pour ceux que ça intéresse, elle s'appelle la Scuola Babilonia. Et rien que pour ce lieu, ça vaut le détour. C'est un havre de paix. On y entre en passant sous les orangers. La nuit tombante, il y a des petites loupiottes qui s'allument tout au-dessus de nos têtes. C'est hyper romantique, mais on est quand même là pour bosser, hein. N'oublions pas que c'est une école. Les classes ont vu sur un sublime jardin, hyper charmant, sur le café-restaurant en plein air central qui rythme la vie des cours et des étudiants de tous les âges et de toutes les nationalités. Et en fait, là-bas, j'y ai découvert une méthode d'apprentissage atypique basée sur l'oral et sur l'écoute. Alors, l'écrit est aussi important, évidemment. Mais en fait, j'ai compris qu'on pouvait s'imprégner d'une langue sans s'en rendre compte, en fait, vraiment. Ne serait-ce qu'en écoutant la radio, des podcasts, des films, des séries, comme une petite mélodie qui s'infiltre peu à peu dans notre mémoire. Et leur méthode d'apprentissage, elle est vraiment basée sur des exercices qui sont presque des jeux, qui nous prouvent ça, en fait. Et je ne peux que vous la recommander. Et d'ailleurs, en parlant d'apprentissage, en écoutant des séries notamment, il y en a une que je vous recommande, et c'est mon inspiration culturelle qui est reliée à ce lieu. Je pense que vous êtes déjà nombreux à l'avoir découverte. C'est la saison 2 de The White Lotus, la série américaine de Mike White, qui est tournée à Taormina.
Welcome to the White Lotus in Sicily.
La dolce vita.
Autant vous dire qu'en y allant l'été qui a suivi la diffusion, le nom de la série était sur toutes les lèvres. Les épisodes magnifient mais complètement cette station balnéaire avec des prises de vue sublimes. Là, c'est vraiment l'Italie, bah, comme dans un rêve, c'est l'incarnation parfaite de la Dolce Vita. Et c'est vrai que cette série, bah, elle donne juste envie d'aller faire un footing très très tôt le matin quand on y est, quand tout le monde dort encore, pour avoir exactement les mêmes prises de vue dans son appareil photo. Ai-je réussi à le faire en un mois de séjour ? Non. Ne me jugez pas, par pitié, mais non, je n'ai jamais réussi à le faire. Bon, en même temps, c'était les vacances, je suis sûre que vous me comprendrez. Pour ceux qui l'ont suivi, cette série, elle est tournée dans le sublime San Domenico Palace. Assez difficile d'accès durant la période touristique, mais vous pouvez profiter d'un autre spot de tournage avec une vue incroyable, et c'est le restaurant Le Grand Bleu, oui messieurs dames, en français. Le cadre y est grandiose, la cuisine aussi, et sincèrement, c'est mon petit coup de cœur du voyage. En plus, j'y suis allée à la fin de mon séjour, un peu comme le moment d'adieu dans un endroit idyllique, voilà, qui reste bah, là encore, gravé dans ma mémoire, donc je vous le recommande. Bon, je pourrais continuer à lister d'autres de mes voyages, mais bah, là, on est parti pour 3 heures de podcast, donc je vous les épargne et je préfère en garder encore un peu sous le coude pour vous les révéler dans les prochains épisodes d'Allora. Allora, justement, comment tout a commencé ? Comment l'Italie a-t-elle une nouvelle fois stimulé ma curiosité et provoqué un nouvel élan dans ma vie ? Eh ben, je vous le dis tout de suite dans le chapitre 3. Allora, le podcast.
Come creare un podcast.
L'année dernière, j'ai eu besoin de renouvellement. Le besoin de créer mon projet à moi, de m'exprimer autrement que par mon métier, qui est d'être journaliste en télé. Je pense qu'on passe tous par des périodes où on a besoin de se lancer de nouveaux défis, et moi, c'était exactement ça. Alors, j'ai commencé à écouter des cycles de conférences sur la créativité pour faire naître de nouvelles idées en moi et pour secouer mon petit cocotier intérieur, quoi. Et il y a eu 2 masterclass qui ont tout débloqué. La première, elle était donnée par la philosophe Marie Robert, que j'adore, qui m'inspire énormément. Et cette conférence, elle s'appelait « Trouver son projet créatif ». Et une question a résonné. Marie Robert nous expliquait qu'un projet personnel, c'était quelque chose qu'on allait souvent devoir mener en parallèle de notre vie professionnelle et qu'il fallait donc défendre un projet autour d'une passion qui était déjà là en fait, déjà bien ancrée, bien présente dans nos vies. En somme, une passion dont on ne peut pas se passer, qui fait déjà partie de notre quotidien et de nos besoins. Et elle nous demandait d'identifier quel était cet endroit de nos vies. Et là, l'évidence n'a pas attendu bien longtemps pour faire son apparition. Bah, évidemment, c'était l'Italie, quoi. Et j'ai retrouvé le carnet dans lequel j'avais pris des notes. Et du coup, je vous lis ce que j'avais inscrit. J'avais écrit « Depuis le début de cette masterclass, la passion qui ne cesse de revenir, c'est l'Italie, la culture italienne. C'est depuis des années ma respiration. Alors pourquoi ne pas penser à un projet dont l'Italie serait au centre ? Pourquoi pas un podcast sur l'Italie, les livres, les films, les plats, la peinture, l'art de vivre à l'italienne ?» Et en fait, c'est assez ouf quand je relis ces quelques lignes, parce qu'en fait, je les avais pas relues depuis, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, comme quoi, bah, en fait, l'idée, elle est vraiment apparue de façon assez limpide. Et en fait, j'ai tout de suite réalisé qu'en grande auditrice et fan de podcast, je cherchais depuis des mois un podcast sur l'Italie qui me permette d'en savoir plus sur la culture italienne, de découvrir des nouveaux livres, des films, des musiques qui sortent un peu des sentiers battus et des grands classiques que tout le monde connaît. Et je n'en trouvais pas. Et donc à ce moment précis, je me suis simplement dit « Mais en fait, pourquoi tu n'oserais pas, toi, créer le podcast que tu as envie d'entendre ?» Et en fait, bah, c'est comme ça que tout a commencé. Et de fil en aiguille, je me suis dit que j'avais en fait déjà toutes les clés en main pour le lancer. Étant journaliste, je vous le disais, depuis une quinzaine d'années, spécialisée et surtout passionnée par le portrait, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite et que bah, je raconte des histoires inspirantes qui m'ouvraient des horizons variés, qui pouvaient parler d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs, d'écrivains et plein d'autres choses, mais qui avaient tous pour point commun l'Italie en toile de fond. Donc des milliers d'histoires possibles, mais qui racontent une Italie finalement assez différente à chaque fois ou avec ses spécificités à chaque fois. Et l'idée des inspirations, elle est venue bah, parce que moi-même, égoïstement, j'avais envie d'avoir plein de nouvelles références culturelles italiennes, mais aussi parce que dans tous les portraits sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai préparé, j'ai souvent découvert que des œuvres avaient pu orienter des vies, être des éléments déclencheurs. Et c'est pour ça que je demande à tous mes invités d'Allora quelles sont les œuvres qui ont jalonné leur histoire. Et généralement, il n'y a pas de secret, tout fait toujours sens. Et il ne me restait plus qu'à trouver un nom qui a été comme une évidence, là encore. Au fil de mes voyages en Italie, j'avais noté que ce mot « alors »,« allora », ponctuait sans cesse les phrases de nos joyeux Italiens. Et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez entendu en voyage. Vous allez au restaurant, vous demandez une table et il y a toujours un « allora ». Enfin, c'est vraiment ponctué partout. Et quoi de mieux que cette expression pour donner l'impulsion d'un podcast basé sur l'échange et la discussion. Alors, il me manquait encore l'essentiel, ben, le ou la première invitée. Et c'est là qu'une seconde masterclass a fait tilt. Elle était animée par Eleonora Gallasso, dont je suivais le parcours depuis des années, depuis ses chroniques dans C'est à vous notamment, et dont je collectionnais les livres sur la cuisine et l'art de vivre à l'italienne. Et sa conférence à elle s'intitulait « La créativité à l'italienne ». Et elle nous enseignait plus particulièrement comment exprimer son désir à l'italienne. Bon, bah là, du coup, j'avais tout le package pour partir sur de bonnes bases. Et surtout, deuxième évidence, bah, en fait, je prenais conscience que je rêvais qu'elle soit ma première invitée. Et comme j'avais bien suivi la masterclass de comment exprimer son désir, eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai écrit un mail. Bon, bah, la suite, vous la connaissez. C'est en effet devenue la première invitée d'Allora, un peu comme la marraine. Et je la remercierai jamais assez de m'avoir fait ce cadeau-là, parce que c'était vraiment un cadeau. Et la suite, eh bien, c'est avec mes amis d'enfance, Tommaso, alias Thomas Jouffry, à la française, et Francesco, alias François Pro. C'est avec eux qu'elle va s'écrire cette suite, et pour ça, je vous propose de les retrouver sur le bord de l'eau. Bon, vous l'avez compris dans le teaser de l'épisode diffusé sur Instagram pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, j'aurais adoré être en direct de Venise, mais on s'est plutôt donné rendez-vous sur le canal de l'Ourcq à Parigi. Bon, du coup, on se retrouve sur le bateau. Je suis entourée de Francesco et Tommaso, qui sont mes deux amis d'enfance qui m'ont aidé chacun par leur talent à lancer le podcast Allora. Et pour lancer un podcast, eh ben, ok, il faut du matériel, il faut enregistrer, il faut savoir poser des questions, mais il faut aussi un générique avec une petite musique, des petits bruitages, des trucs sympas. Et donc là, je t'ai contactée. Est-ce que tu te souviens de notre première séance d'enregistrement, François?
Oh oui, je me souviens de notre première séance d'enregistrement, c'était chez moi, je t'ai invité chez moi parce que j'ai du matériel son dans mon petit studio parisien et je t'ai repris beaucoup, on l'a beaucoup réenregistré.
Non.
Si. Peut-être que je peux retrouver les pistes d'ailleurs si tu veux, de tes premiers enregistrements.
Non, elles ont été supprimées.
Non, je crois pas. Parce que Claire est de base une journaliste qui est très fort entraînée au journalisme télévisuel et qui a pris parfois beaucoup l'accent journalistique.
Et avec du coup, des inflexions.
Exactement. Et un ton très sensuel, mais très arythmique. Et donc j'étais beaucoup repris pour qu'on essaye de trouver un truc plus simple.
Ça faisait un peu téléphone rose à certains moments.
Exactement, c'est ça. Voilà.
C'est vrai, c'était assez rigolo. Du coup, François m'a quand même vachement aidé à trouver un ton plus naturel. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le podcast, c'est pas de la radio. C'est pas « Oh, il y a des gens qui nous font coucou !» c'est qu'en fait, c'est une conversation, c'est une discussion. Et ça a été au début le premier petit challenge à trouver. Parce que quand on vient des médias habituels, il y a des habitudes qui sont prises. Quoi. Donc j'avoue, tu m'as aidé dans toute cette dynamique-là. Et puis, tu as monté tous les allora des copains qui ont participé au générique. Et dans ces allora, il y avait le allora de Thomas qui, lui, m'a aidé à lancer toute la partie visuelle. Et ça, c'est vraiment à toi, Thomas, que je le dois.
Alors, je me souviens de cette première rencontre, la première fois que tu m'en as parlé de ce projet. Tes premières ébauches, tes directions, tes moodboards, tes couleurs. Et puis au final, voilà, tout s'est accordé au fur et à mesure entre nous. Et puis on a vite trouvé cette identité visuelle pour ton podcast, qui est quand même une magnifique idée.
Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on s'est retrouvés la toute première fois, où tu avais déjà commencé à réfléchir parce qu'il est trop fort, il a plein d'idées. Et on était en train de regarder tous ces logos, toutes ces inspirations visuelles. Et à ce moment-là, je reçois, mais vraiment pile à cet instant, la réponse d'Eleonora Galasso, qui était vraiment la personne que je voulais pour le premier épisode. Je lui avais envoyé un mail, je sais pas, quelques semaines avant. Et en fait, au moment où on se décide sur le logo, j'ai la réponse d'Eleonora qui me dit
« Les planètes s'alignent. »
Ravie de participer au podcast. Et à ce moment-là, on s'est dit
« Ça y est, c'est parti !»
Donc, trop bien. Non. Et ton idée à toi de la bichromie, qui est la signature un peu d'Alora, parce que l'idée, c'était de réussir à garder une touche un peu vintage.
Ramener un peu de pop aussi, ce que tu avais envie, quelque chose de pétillant et puis quelque chose de coloré parce que ça correspond à ta personnalité, aux invités aussi dans le podcast. C'était une belle aventure et au final, on est assez contents du résultat tous les deux parce que ça donne vraiment une image pétillante de ton podcast et c'est ce qu'on voulait. À la base.
Tu as appris beaucoup de choses au niveau du son. Est-ce que tu te rappelles le premier podcast que tu m'as fait écouter? Est-ce que tu te rappelles, il y avait un problème énorme au niveau du son? Un problème de stéréo, tu te souviens pas?
Ah oui.
On avait vraiment un micro de l'invité qui était extrêmement à gauche et ton micro à droite qui était extrêmement à droite. Et donc à écouter, c'était très très désagréable au bout d'un moment parce que la question passait d'un côté et puis la réponse de l'autre. Et donc voilà.
Et je comprenais pas pourquoi ça faisait cet effet. Je me disais, ça doit être normal, je sais pas, sur les sites de montage. Et François m'a dit, mais non, les curseurs sont vraiment à l'extrême. Oui, en effet, t'as complètement raison. Oui, comme quoi, faut essuyer quelques...
Tout est apprentissage.
Quelques bavures, oui, ouais. Et ensuite, on réussit à s'en sortir. Quoi.
Et Chiara Plantinetti, vous nous disiez tout à l'heure que vous parlez italien. Et ça tombe bien parce qu'on a un vrai italien parmi nous.
Ah non, le piège.
Siciliano qui a pour vous une question en italien et on aimerait une réponse en italien.
La domanda è semplice.
Si.
Se potessi vivere in Italia, in quale città vivresti?
È una bella domanda. Penso che la città è Venezia perché ho passato qualche giorno con Tommaso a Venezia, ho scoperto questa città, era un po' una sorpresa per me, non pensavo che questa città era così, è veramente una città è autentica, è vera, dunque penso che è un po' un sogno per me di vivere a Venezia, sì, sì. Un sogno. Grazie mille et merci à vous les copains de m'avoir accordé ce temps de tournage. Ici c'était la Mostra de Venise, on reste dans la thématique en fait. Hein. On a fait un super teaser d'épisode tous ensemble et en plus on a pu partager ces quelques souvenirs avec tous les auditeurs d'Alora.
Ah, j'ai des sacrés copains. Bon, pardon pour ce petit souci de son, vous avez dû l'entendre, un micro nous a lâché pendant l'enregistrement. Et ouais, c'est ça les aléas des gondoles. Vous avez aussi entendu un Italien dans cet extrait. Le seul de la team Allora, c'est Davide Ferranda. Et je tenais à le remercier tout particulièrement d'avoir accepté de jouer les marins d'eau douce, alors qu'il est quand même directeur de recherche en climatologie au CNRS. Alors, merci beaucoup Davide d'avoir mis de côté la planète quelques heures pour venir apporter ta touche d'italianité dans cet épisode et ce teaser. Bon, on approche de la fin de cet épisode. J'espère que je suis pas trop bavarde. Je réalise qu'en fait, j'avais pas mal de choses à confier. Mais il nous reste, vous le savez, encore 3 rituels à respecter. Le premier, je demande toujours aux invités d'Allora quel est leur secret pour insuffler un peu de dolce vita dans notre quotidien. Alors, si je devais vous donner mon conseil dolce far niente, je crois que ça serait celui de profiter de chaque rayon de soleil sur notre chemin. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une base de conseils cuculapraloche ? Pas du tout ! J'en rigole moi-même. Non, mais attendez, je m'explique. C'est peut-être une habitude de Parisienne qui vit dans la grisaille, mais comme la vie, elle est bien rythmée à Paris, que j'ai pas toujours le temps de me dégager des vrais petits moments de pause, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je marche dans la rue, que je me balade ou que je me prends un café en terrasse, bref, et que je sens le soleil briller, comme se poser sur moi, eh bien, je ferme juste les yeux. C'est systématique. Et je profite de ce tout petit instant. Et en fait, j'ai réalisé que pour moi, c'était un peu comme le phénomène dont je parlais tout à l'heure, de connexion à l'Italie, dès le premier pied posé, où on sent comme une douce énergie nous envahir un peu. Enfin, c'est toujours ça ce que je ressens. C'est assez difficile à expliquer, mais je pense qu'on est nombreux à ressentir cette chose-là. Et pour moi, bah, c'est la même chose avec les rayons du soleil. Ça me redonne comme un petit coup de boost et surtout, ça prépare ma peau d'italienne, quoi. No comment. Bon, vous avez compris l'idée. Les inspirations italiennes, c'est le rituel numéro 2. Au cours de cet épisode, je vous ai déjà donné quelques conseils culturels, photos, gravures, séries, films. Mais vous le savez, dans Allora, on a toujours envie de récolter plus d'inspiration italienne. Alors je vous en donne encore un peu en espérant vous faire faire quelques découvertes. C'est quand même ça l'intérêt. Alors, si je devais choisir le portrait d'une personnalité italienne qui m'inspire, ça serait celui de la journaliste italienne Oriana Fallaci. Alors évidemment, ça fait écho à mon métier. Mais c'est vraiment une femme dont le parcours me passionne depuis de nombreuses années. Je l'ai découverte en 2015 avec une biographie intitulée « Oriana, une femme libre » de Cristina De Stefano. Et la même année, il y a même eu un film qui lui était dédié, qui porte tout simplement son nom, qui est réalisé par Marco Turco.
Sono una giornalista e voglio scrivere di voi, delle vostre vite.
C'est vraiment la figure au féminin du journalisme italien au XXe siècle, mais aussi dans le monde. Elle va couvrir les plus grands conflits, les plus grands événements de notre histoire contemporaine, au Vietnam, en Iran, au Mexique, aux États-Unis. Elle a vraiment sillonné la planète et interviewé des personnalités comme Khomeini, Yasser Arafat, Kadhafi. Elle a vraiment imposé son style, sa patte, en allant à la fois au plus près de l'émotion, tout en assumant une écriture qui est très cash et des prises de position aussi, souvent assez tranchantes, qui ont pu faire un peu grincer des dents à la fin de sa carrière et de sa vie. Mais elle se définissait vraiment comme une femme libre et elle l'était. Elle est décédée en 2006, donc il n'y a pas si longtemps, et c'est vraiment pour moi une aventurière des temps modernes. J'ai pas encore lu son célèbre roman Un uomo, un homme, dans lequel elle raconte la vie de son compagnon Alexandros Panagoulis. J'espère que je prononce bien, on demandera à Nikos. C'est un homme politique et un poète grec qui a participé activement à la lutte contre la dictature des colonels en Grèce de 1967 à 1974. Et vous verrez, si vous visionnez le film ou si vous lisez cette bio, vous le découvrirez. C'est un homme qui a été important dans sa vie et c'est vraiment devenu son roman référence. La chanson qui me fait voyager en Italie dès les premières notes. Alors, c'est pour moi Sparring Partner de Paolo Conte.
È un macaco senza storia. Dice lei di lui.
Ah.
Déjà, on adore ce chanteur italien. Moi, je l'ai découvert comme beaucoup, je pense, avec son tube « Via con me ». Et un jour, j'ai entendu cette chanson « Sparring Partner » qui porte un titre anglais, mais qui est bien italienne et qui est un peu comme une fable. En fait, elle raconte l'histoire d'un macaque sans histoire. C'est ça la première ligne de ses paroles. Mais derrière cette image, en fait, il décrit un boxeur avant un combat qui doit s'entraîner malgré l'absence de son adversaire, mais qui ne montera jamais finalement sur ce ring. Évidemment, c'est souvent des métaphores de vie qu'on interprète chacun d'une façon personnelle, mais j'adore l'ambiance de cette chanson dans laquelle elle nous transporte. C'est hyper italien, selon moi, un peu vintage, un peu jazzy aussi, et puis bah, y a cette mélodie. Moi, elle m'emporte direct dès que je l'entends et ça me fait du bien. Donc j'espère que si vous ne la connaissez pas, elle fera le même effet sur vous. La pièce italienne qui a été une révélation cette saison. C'est à la base un roman italien qui est devenu culte à titre posthume et qui s'intitule « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. L'histoire de ce livre, en fait, elle est complètement dingue. C'est la saga sur près d'un siècle d'une héroïne sulfureuse et transgressive, Modesta, qui, tout au long de sa vie, va chercher à s'émanciper pour devenir une femme libre. Là encore, un sacré portrait de femme. Goliarda Sapienza, c'était en fait à la base une comédienne italienne et elle a écrit cette histoire pendant 7 ans. Et à l'époque, on est en 1976, aucun éditeur italien n'a voulu du texte parce qu'il est jugé trop scandaleux. Et c'est ce qui est fou, c'est seulement en 2005 qu'on en a entendu parler, en Allemagne d'abord, où le texte a été redécouvert, ou découvert tout simplement, puis en France. Le texte original, il s'est retrouvé dans les mains de l'éditrice Viviane Amy, et elle décide de le traduire, et quelques semaines après sa publication, ça devient un phénomène littéraire cette année-là, et aujourd'hui, on peut même dire que ce roman, il est considéré comme une œuvre majeure de la littérature italienne. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, bah ouais, 800 pages, hein, ça peut faire peur, mais je vais m'y mettre cet été, c'est un challenge. Et ce qui m'a motivée, c'est l'adaptation du roman à la scène, qui a été réalisée cette année par Ambre Cahan.
Et voyez, me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux.
Et qui est incroyablement et magnifiquement interprétée par la comédienne Noémie Gantier. Elle est sur scène pendant 5 heures à nous transmettre la première partie de la vie de cette héroïne avec une fougue folle, une énergie atomique. Dans le public, on se prend vraiment une vague de liberté, la liberté du personnage, et ça fait un bien fou. Moi, je l'ai découvert il y a un peu plus d'un mois au Théâtre des Amandiers à Nanterre, mais vous pourrez la découvrir ou la redécouvrir à partir de l'automne prochain, car il va y avoir de nouvelles dates de tournée qui seront annoncées prochainement sur le site de la compagnie qui s'appelle Get Out, dont Allora se fera évidemment le relais. Et surtout, il y aura la suite de cette adaptation, la partie 2, qui est prévue pour la saison 2025-2026. Ça vaut clairement le coup d'être patient, car pour moi, ça a vraiment été le gros choc de théâtre de l'année. Et une petite dernière inspiration à vous soumettre, le compte Insta que je vous recommande de suivre. C'est celui de Sushi Mango, spéciale dédicace à ma monteuse préférée Barbara, d'origine italienne. Tiens donc, c'est elle qui me l'a fait découvrir après une rude journée. Et depuis, j'ai juste passé des heures à rire de leurs vidéos. En fait, c'est un conte australien, c'est un trio. Il y a deux frères, Joey et Carlo, et leur meilleur ami Andrew. Et ils font des vidéos dans lesquelles ils miment, ils se jouent des clichés sur les Italiens. Alors, c'est fait avec beaucoup de second degré, tout en restant hyper respectueux. Et voilà, j'espère surtout que ça vous fera rire autant que moi et Barbara. Il nous reste le mot de la fin. En italien, le troisième rituel pour vous faire voyager jusqu'au bout de cet échange à travers des sonorités italiennes. Alors, soyez indulgents avec mon accent, je me lance. Chi ha un sogno dovrebbe andare in Italia. Non importa se si pensa che il sogno è morto e sepolto, in Italia risorgerà e camminerà. Ça dit, quiconque a un rêve devrait aller en Italie. Peu importe si l'on pense que le rêve est mort et enterré, en Italie, il se lèvera et marchera à nouveau. Et c'est une citation d'Elizabeth Spencer, qui est une écrivaine américaine. Je suis tombée sur cette phrase un jour complètement par hasard, et je me la suis notée, parce qu'elle retranscrit exactement ce que je ressens vis-à-vis de l'Italie, et ça fait partie des petits mantras, vous savez, qu'on aime relire souvent, et moi, bah, cette phrase, je la relis souvent. Donc voilà, je vous la partage. Eh bien, je crois bien que c'est la fin de cet épisode qui était un peu particulier pour moi, car on ne va pas se mentir, je suis quand même plus habituée à poser les questions qu'à me livrer. Donc j'espère vraiment vous avoir transmis du mieux possible cette passion qui m'anime pour ce pays et cette culture. Un grand merci à vous, les auditeurs fidèles d'Allora, les petits nouveaux aussi peut-être, il y en a toujours un peu. C'est symbolique, mais grâce à vous, j'ai passé le cap il y a tout juste quelques jours des 10 000 écoutes cumulées. Alors, c'est une petite victoire. Quand je vois les chiffres mensuels de mes copines podcasteuses, je rougis un peu. Mais ça reste une victoire. Alors, je la partage avec vous et je vous dis merci infiniment. Et puis, j'ai des merci un peu particuliers à formuler. Avant tout, à Thomas, François et Davidé pour leur participation amicale dans cet épisode. Merci à Céline Steyer des podcasts Nouvelles Héroïnes et Je peux pas, j'ai podcast. D'ailleurs, si vous les avez pas écoutés, ben, faites-le tout de suite. Merci à elle pour ses bons conseils. Merci à Alice Krieff pour son accompagnement précieux au son. Et merci à tous les invités qui m'ont fait confiance durant cette première année. C'était vraiment le plus beau des cadeaux. Évidemment, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ainsi que vos commentaires. Je sais que cela demande quelques minutes, mais vraiment, c'est une très grande aide pour le développement et la visibilité du podcast. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Et comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Insta @allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. A presto!
Finiamo così!
Allora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Tanti applausi!
Ciao!
Meraviglioso!